direct de la Maison de la Radio avec Benjamin Hu à la réalisation, Élise Leu à la technique, Bruno Barada, Oriane Delacroix et Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez, Philomène Villard et Marceau Vassy à la préparation. Bonjour à tous. Depuis hier, la Grande Table a retrouvé ses deux jambes, culture et idées, et son journal de midi et demi présenté par Thomas Cluzel. Aujourd'hui, réflexion autour de la littérature et de la transmission avec la romancière et enseignante Cécile Ladjali, professeure de français dans le secondaire en Seine-Saint-Denis. Elle est aujourd'hui chargée de cours à l'université Paris 3, car enseigner, c'est aussi transmettre. Après Éloge de la transmission et un prix Fémina pour Mauvaise langue, après une dizaine de romans, son dernier vient de paraître, La fille de personne, c'est chez Actes Sud. Puis, rendez-vous à partir de 12h55 avec la philosophe Evelyne Grossman pour interroger la créativité de la crise, titre de son dernier essai, paru chez Minuit. Bienvenue sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Fille d'une Italienne et d'un persan qui l'a abandonnée à la naissance, Luce note et chargée par sa mère, à sa mort, de partir à la recherche de son père. Elle venait de me damner. Le roman nous fait voyager de Prague à Paris à la rencontre d'abord du jeune Franz Kafka, docteur en droit entiché de littérature, qui écrit en cachette le livre qui deviendra le verdict. 40 ans plus tard, à Paris, c'est un autre écrivain que notre héroïne va rencontrer, l'Iranien Sadegh Hedayat, rejeté par sa famille, censuré dans son pays. À la faveur de coïncidences supérieures, nous dit l'auteur, elle croise les destins de ces deux écrivains tentés de détruire leur œuvre. Bonjour à vous, Cécile Ladjali.
Bonjour Olivia.
Merci à vous d'être avec nous, même virtuellement, à distance. Plaisir de vous recevoir pour ce livre qui nous fait voyager, je le disais, de Prague à Paris, surtout dans l'œuvre et l'univers de deux auteurs. Accoucheuse de rêves, Soleil noir, écrivez-vous, Cécile Ladjali. Qui est exactement cette héroïne, cette Luce, cette héroïne que vous vous êtes inventée pour ce livre ?
Alors, Luce, c'est un oxymore vivant, le jour, Luce, note et la nuit, qui a le sentiment qu'elle n'existe pas au monde, que son être n'est pas complet, parce qu'elle n'a jamais connu son père. Donc, il va falloir qu'elle retrouve un père spirituel, peut-être, qu'elle va fantasmer à travers ces deux immenses écrivains, Franz Kafka et quelques années plus tard, Sadegh Hedayat, pour pouvoir être écrite par eux, pour pouvoir ne plus être la fille de personne. Voilà, et c'est un livre vraiment sur la figure du père absent que l'on cherche éperdument. Et ce que constate Luce à la fin de sa quête, qui est par certains aspects assez déceptive, c'est qu'il existe des filiations secrètes, des adoubements très puissants, des liens plus forts encore que ceux du sang. Et elle va à travers le monde, en passant par Prague où elle croisera Franz Kafka, et en allant à Paris où elle va ouvrir une librairie rue des Écoles, où elle croisera la semaine de son suicide l'immense écrivain Sadegh Hedayat. Elle va à travers ces deux hommes obscurs qui ressemblent terriblement à la photo qu'elle conserve dans son sac à main. Elle n'a que ça de lui, de son père. Elle va fantasmer une filiation, une paternité à travers ces deux-là. Et voilà, Luce, c'était aussi pour moi l'occasion de dire une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est qu'il existe des fratries d'écrivains. Et j'avais envie, à la faveur de la fiction, de faire en sorte que ma petite Luce tisse un lien entre Franz Kafka et Sadegh Hedayat, parce qu'à bien des égards, dans leur esthétique, dans leur pensée, dans leur façon de concevoir la littérature et le monde à travers elle, il y a énormément de points communs. Et ça, elle nous le dit au travers du roman. Et mon petit roman, c'est surtout l'occasion pour le lecteur de retrouver l'œuvre, les deux œuvres immenses de Franz Kafka et de Sadegh Hedayat.
Voilà, qui sont là et autant Luce est un personnage de fiction, une femme de papier, sortie de votre imaginaire, autant Franz Kafka et Sadegh Hedayat ont vraiment existé. Pourquoi vous avez choisi de rapprocher ces deux auteurs? C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans leur œuvre, dans leur vie, dans leur parcours, les a rapprochés, vous autorise aujourd'hui ou vous invite à les associer?
Alors, tous les deux avaient, tout comme Luce d'ailleurs, un rapport, une relation très très problématique avec leur père, très conflictuel. On sait bien que Franz Kafka a été terrifié par Hermann Kafka, hein, qui apparaît dans le roman, qui en est un véritable personnage. Et Hermann toisait son fils, le prenait vraiment de haut parce qu'il était entiché de littérature, alors qu'il aurait dû verser complètement dans sa première vocation, c'est-à-dire le droit. Et voilà, il y avait une relation très très difficile entre le père et le fils. Sader Hedayat s'entendait très mal avec le sien également. Tous les deux étaient des êtres profondément mélancoliques. Tous les deux ont eu la tentation de détruire leur œuvre par le feu. On sait que l'ami de Franz Kafka ne l'a pas fait, alors que Kafka avait demandé à Max Brod de brûler ses manuscrits. Sader Hedayat, lui, c'était peut-être ça, son grand œuvre. Il l'a fait en présence de Luce, dans la nuit du 8 au 9 avril 1950. À Paris, rue Championnet. Avant de mettre fin à ses jours, il se suicide au gaz d'éclairage, il brûle ses manuscrits. Et donc voilà, la tentation de la destruction de l'œuvre par le feu. Et puis deux immenses écrivains qui s'ennuyaient à 100 sous de l'heure dans, pour le premier, une compagnie d'assurance et dans l'autre, dans une banque. Et tous les deux, pour paraphraser Kafka, pensaient que tout ce qui n'est pas littérature les ennuyait et il le haïssait. Voilà, tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je le hais. C'est une phrase du journal de Kafka hein, qui apparaît aussi dans le roman. Donc voilà, plein, dans la biographie même, plein de points communs. Et puis Franz Kafka est le... Sader Hedayat, excusez-moi, est le Kafka iranien. Il a traduit et préfacé plusieurs de ses œuvres. Il est considéré en farsi. Il a traduit de l'allemand vers le farsi Kafka. Et il est considéré, en raison de son esthétique, de ses thèmes, comme le Kafka iranien, même si sa prose à lui est matinée d'une dimension surréaliste, onirique, qui n'existe pas dans l'œuvre très, très froide, très minimaliste de Franz Kafka. Dans les années 30, à Paris, lors de son premier voyage, Sader Hedayat a rencontré la clique à André Breton, les surréalistes. Il ne les a pas trop aimés, d'ailleurs. Parce que il était ces gens-là, cette engeance surréaliste très mondaine, très parisienne, s'intéressait à Hedayat pour de mauvaises raisons. Vous savez ces raisons que dénonce Saïd dans le rapport que l'Europe, que l'Occident a avec l'Orient, un rapport, une espèce d'amour un peu kitsch pour Saïd comme pour Hedayat. L'Orient, ça n'est pas le Moyen-Orient, c'est pas les peintures de la Croix, c'est pas Charles Baudelaire, c'est pas Théophile Gautier, c'est bien autre chose. Et il trouvait que voilà, les surréalistes et les amis de Breton le prenaient un peu de haut et l'aimaient pour de mauvaises raisons. Mais cette tessiture surréaliste participe quand même de son esthétique malgré tout.
Je crois aux familles d'écrivains, dit Hedayat. Je crois aux fratries d'auteurs, aux généalogies d'artistes et des affaires de consanguinité, écrivez-vous. C'est à vous lire, en tout cas, une conception aussi commune de l'écriture hein, qui rapproche ces deux auteurs. Une écriture qui pourrait capter la magie peut-être ou l'étrangeté de nos vies, du réel. Kafka dit sous votre plume, en somme, ce qui est fantastique, irréel, c'était le monde d'ici-bas. Et Sader, lui, il dit, le réel et son étrangeté me suffisent. Pour Kafka, la littérature, vous le rappeliez, et la littérature est tout. Ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je le hais, car cela me dérange ou m'entrave, même si ce n'est qu'une présomption. Marthe Robert, sa traductrice historique, Cécile Ladjali, explique cette phrase communément prêtée à Kafka. Kafka, la langue est ma patrie.
Kafka n'a jamais dit que la langue était une patrie. C'est peut-être moi qui l'ai suggéré dans ce que j'ai écrit. Lui disait, et ça évidemment je le dis aussi, la langue est notre éternel bien-aimé.
Ah, hein? C'est joli, oui.
Oui. Autrement dit, c'est ce qu'on aime passionnément, mais en même temps, quelque chose qui peut toujours vous fuir, se dérober, vous manquer. Le fait que bon, la langue allemande était sa langue maternelle, il n'en avait pas d'autre, n'est-ce pas? Mais en même temps, il ne se sentait que l'hôte de la langue allemande. Il disait « Je suis l'invité de la langue allemande ». Et ça a déterminé en grande partie la constitution de son style.
Et Dayat écrivait en quelle langue? Il avait partagé cette sensation de Kafka d'être l'hôte de la langue qu'il avait choisie, à moins que ce soit cette langue-là qu'il a choisie lui.
Il a été choisi par la langue française. Il aimait beaucoup écrire à Paris et il écrivait en farsi, mais aussi en français, hein, dans les deux langues. Et ce qu'il y avait de merveilleux, c'est que Dayat était peut-être plus royaliste que le roi encore, vous savez. Il avait un accent, son français était impeccable. Et Luce le remarque et le commente. C'est cet accent qui fait ressortir plus magnifiquement encore la beauté du français, parce que son français garde en lui des scories, des souvenirs du farsi. Par exemple, l'absence de genre. Il n'y a pas de genre. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cette langue farsi. L'absence d'article aussi. Donc, il parle comme ça, en se souvenant dans son français du farsi. Et ça donne quelque chose d'absolument magnifique. Et pour en revenir à Kafka, Kafka était bien avant Paul Celan, assez travaillé avec cette question de la langue allemande, qu'il l'avait invité, qu'il parlait plus que lui ne la parlait encore, et il disait que dans la vie, par rapport à l'écriture, il y avait quatre impossibilités. Impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d'écrire, impossibilité d'écrire en allemand, et impossibilité d'écrire autrement. Il y avait avec cette langue allemande un combat qui est effectivement un amour aussi de cette langue, mais un combat avec elle, une langue qui devait l'inquiéter à bien des égards, parce qu'on sait à quel point l'œuvre de Kafka, 20 ans avant le pire, est absolument programmatique. Et c'est à la faveur de cette lutte-là que moi, en tant que lectrice, cette lutte avec les mots, avec la langue, c'est à la faveur de cette lutte-là que moi, je mesure toujours la puissance d'une œuvre littéraire. Quand on sent vraiment que l'écrivain savait que le combat était perdu d'avance, quand on sent vraiment qu'il a engagé une lutte mettant en danger avec le langage. Et moi, je partage vraiment cette certitude-là que même si on est, pour parler comme mon maître récemment disparu, George Steiner, continuellement en extraterritorialité, même si on ne sait pas trop si on est français ou iranienne en ce qui me concerne, si on est tchèque ou si on est allemand pour Kafka, si on est français ou si on est iranien pour Hedayat, on est certain d'habiter notre langue, la langue qu'on a choisie, la langue qui nous a choisi. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, que d'être confortablement installé dans le langage, même si parfois il nous malmène. Mais bon, qui aime bien châtie bien.
Oui, un mot, Cécile Ladjali, de cette nouvelle traduction des journaux de Kafka qui vient de paraître. Elle est signée Robert Kahn aux éditions Nous. Oui. Pas de coupe, disait-il, pas de censure, une revisitation par un traducteur obstiné et tout récemment lui aussi décédé. Nous laissons donc ces vastes journaux de Kafka revisités. Il les avait écrit Kafka entre 1910 et 1922, vous y faites référence à plusieurs reprises dans le roman, puisqu'il révèle aussi, et vous êtes appuyé sur la traduction de Marthe Robert, il révèle un jeune homme assez travaillé, par la figure terrifiante du père, un jeune homme complexé, mal dans sa peau, qui se sent aussi indigne à la fois de Dieu que des femmes, sauvé par l'écriture. Vous écrivez, le journal que tenait Franz, c'était le roman de sa vie, peut-être son plus grand livre, le monde en était le sujet et lui le héros. Son corps s'y exposait tel un catalyseur recevant tous les éclats d'une société en mouvement. Ça, c'est la narratrice Luce Note qui le raconte, l'héroïne de votre roman, la fille de personne.
Oui, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Personnellement, la prose romanesque de Kafka ne me séduit pas plus que ça. En fait, Kafka est un immense écrivain et j'en ai besoin pour avancer, pour travailler sérieusement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup m'imposer des contraintes, c'est-à-dire choisir d'écrire un livre, par exemple, autour de l'œuvre d'un romancier que je n'adore pas, pour ne pas tomber dans une forme de complaisance et pour pas me regarder écrire. On apprend en avance que quand que quand on se force. Et Kafka, ses romans, qui sont terribles, indispensables à nos vies, bien sûr, mais terribles, je les adore pas tant que ça. En revanche, je trouve que là où les choses deviennent vraiment sublimes, c'est dans son journal d'écrivain. Et il est important, quand on s'intéresse à un auteur, de lire sa correspondance, ses lettres, ses journaux, pour comprendre d'où part la création, l'envie de coucher sur le papier telle ou telle fiction à un moment donné. Ce sont des documents extrêmement précieux pour entrer dans la fabrique du texte littéraire. Et donc, je pour le coup, j'aime... Moi, quand je relis Kafka, c'est son journal que je relis. Et j'aime beaucoup l'écriture aussi fragmentaire. Donc, on peut ouvrir le livre au hasard et lire un fragment, et ça suffit pour vous nourrir toute une journée.
Donc, il n'a pas joué pour vous les pères littéraires, les pères de substitution, comme pour votre héroïne Lusnot, hein, Kafka. Il a une place très à part dans votre imaginaire littéraire.
Il m'a obligée à faire ce que je, à commencer à faire ce que je ne sais pas peut-être encore très très bien faire, c'est-à-dire aller à l'os, dire les choses à minima, et pas me perdre dans les détails. Moi, j'ai une tendance, moi je suis amoureuse de Shakespeare, et puis après de Nabokov, enfin vous voyez, des auteurs très luxuriants, très 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 baroques, très chatoyants. Mon peintre préféré, c'est Le Caravage. C'est pas pour rien que dans un de mes romans aussi, j'avais choisi de parler du peintre Mark Rothko, de l'expressionnisme abstrait américain, pour réfléchir et avancer et écrire quelque chose digne de ce nom sur ces grandes toiles monochromes, qui semblaient terriblement plates par rapport à l'art baroque du Caravage. Kafka, ça, c'est un peu la même chose. C'était un programme pour moi qui allait m'obliger à travailler contre des mauvaises tendances à l'emphase, vous voyez, je suis assez bavarde, hein, et je crois que c'est beaucoup plus difficile de faire simple que compliqué, et ça, c'était des conseils de George Steiner, hein. Ma petite, on n'écrit plus comme à la fin du 19e siècle, lis Kafka, lis Beckett, lis Ingeborg Bachmann, voilà, tu t'écriras moins mal. Donc Kafka est devenu aussi un maître, mais voilà, il n'y a pas cette délégation que j'ai lorsque je lis Nabokov, hein, dont je parlais il y a un instant. Mais vous savez, tout au début, à l'incipit de la Métamorphose, si je me souviens bien, donc de Kafka, le narrateur dit, quand le héros se réveille métamorphosé en cancre là, hein, dans son lit, on se dit, tiens, on va lire un roman fantastique, c'est affreux. Eh bien, le narrateur écrit « Ce n'était pas un rêve ». En fait, c'est terrifiant parce que c'est réel. Et la réalité est l'occasion de la littérature la plus puissante, des rêveries, des délires les plus insensés. Et donc, Kafka m'apprend aussi à lire le monde et à le percevoir, ce réel, dans toute son étrangeté.
Mais alors justement, on a beaucoup dit que cette crise, celle que nous vivons aujourd'hui, avait des accents kafkaïens. Vous comprenez pourquoi ?
C'est sans doute en raison de la puissance de la bureaucratie. On est quand même dans une... La crise qu'on vient de traverser, on s'est bien rendu compte que beaucoup de crises avaient du mal à être gérées, des décisions prises en raison de la puissance de la bureaucratie, de l'administration française, dans la colonie pénitentiaire, dans le procès. Kafka dit et redit à quel point la paperasse, les dossiers, l'absurdité de toute cette nomenclature qui agit comme un étau sur l'humain, hein, et l'écrase, le broie, est insupportable, et pourtant prend le dessus sur tout le reste. Il y a une forme d'aliénation aussi des consciences au réel dans les romans de Kafka, une impossibilité de sortir de la nasse et de ne pas subir, aliénation qui a peut-être été aussi la nôtre pendant ces deux mois et qui continue de l'être, hein. Moi, parfois, je suis frappée dans la rue, maintenant que nous sommes sortis, que nous avons retrouver la liberté, je suis frappée par les yeux qui se baissent quand on croise quelqu'un et qu'on voit, on entrevoit les yeux derrière le masque, au-dessus du masque. Je suis frappée par la cadence des pas. Les gens marchent lentement, parfois les genoux un peu en dedans, comme s'ils étaient malades. Et j'ai envie de leur dire, mais vous êtes en pleine santé. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous a broyé un peu, mais on va se relever, bien sûr, parce qu'il y a les livres et les librairies ont ouvert.
Exactement, et en librairie, on peut trouver La fille de personne. Cécile Adjali, vous êtes notre invitée jusqu'à midi et demi. Votre roman a paru chez Actes Sud, et c'est aussi à travers cette fille de personne pour vous l'occasion de faire un éloge du lecteur sans qui l'auteur n'est rien. Il n'est que le signataire d'un néant, d'une lettre muette, sourde et aveugle. C'est tout le sang du lecteur qui irrigue la carcasse sèche des livres. Un extrait de la symphonie numéro 9 en ré majeur de Gustav Mahler, dirigé par le chef d'orchestre hongrois Adam Fischer avec l'orchestre du Düsseldorfer Sinfoniker. Et ce disque, vous l'annoncez, vient de sortir chez Cavi Musique, France Culture, midi 23.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
France Culture avec notre invitée, la romancière Cécile Adjali, à l'occasion de la parution chez Actes Sud de son nouveau roman « La fille de personne » en librairie. Quel drôle de moment, Cécile Adjali, nous vivons actuellement. Un moment qui nous demande à tous, parents, d'être professeurs et d'être travailleurs, parents, professeurs en même temps. Qu'est-ce qu'un professeur ? Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter les mots de celui que vous avez déjà cité au moins à deux reprises, votre maître à lire, comme vous l'aviez dit, le grand professeur et immense lecteur George Steiner, mort à Cambridge le 3 février dernier. Ensemble, vous aviez signé un livre d'entretien publié en 2003, Éloge de la transmission. Qu'est-ce qu'un professeur ?
Le mot fast food qui est partout à Paris, les McDonald's et les Kentucky Fried Chicken de l'esprit humain l'emportent millions contre un sur la culture. Et alors de quel droit, et c'est là que ça devient vraiment difficile et politique, de quel droit peut-on essayer de forcer un être humain à prendre un niveau plus élevé dans ses joies et dans ses goûts ? Moi, je crois qu'être professeur, c'est s'arroger ce droit, On ne peut pas être professeur sans être despote intérieur, sans dire « je vais te faire aimer un beau texte, une belle musique, les hautes mathématiques, l'histoire, la philosophie ». Mais attention, l'éthique de cet espoir est très ambiguë.
Voilà, et c'est une position d'autorité et donc une position de générosité dans la transmission, Cécile Ladjali. Alors, les écoles ont fermé pendant 2 mois, elles rouvrent tout doucement au compte-gouttes, à un rythme particulier dû à la contrainte sanitaire. Est-ce que vous voyez danger, vous, dans cette rupture de la transmission ?
Oui, je vois, je continue d'y voir un danger. La transmission se fait par le pouvoir de l'incarnation. Il faut avoir un maître en face de soi pour sentir la puissance d'un texte, parce que le maître va le lire, va le tenir en main, et puis après il va inviter l'élève à lire à son tour. On a besoin d'être en présence les uns des autres pour cela, se voir dans les yeux, respirer dans la même salle de cours. C'est très important, cette incarnation, parce qu'il y a quelque chose de troublant, d'abstrait, d'impressionnant dans l'œuvre pour un élève. Et un professeur, un maître doit être une courroie de transmission entre un texte qui de toute façon nous écrase. Même moi, je suis à l'instar de mes élèves, écrasée par des auteurs qui sont bien plus grands que moi. Je suis une naine perchée sur l'épaule de ces géants-là. Donc j'ai besoin étant moi-même impressionnée par les textes que je lis, les auteurs que je fréquente, je sais qu'il faut rassurer les élèves, et il n'y a qu'en passant par la présence des uns avec les autres qu'une amorce d'assurance aura lieu. Donc il faut effectivement aussi, pour être un bon maître, comme le disait George Steiner, ce mélange extrêmement beau d'exigence, de despotisme et d'empathie, hein, une exigence aimante, il faut. L'élève, par définition, c'est celui qui doit être élevé. C'est celui qu'on doit conduire là où, sans le maître, il ne serait pas allé. Il est hors de question que lorsque je fais un cours, je parle aux élèves de ce qu'ils connaissent très très bien. Entrer au lieu, on m'a et très très bien et sans moi, entrer au lieu 1000 fois, on m'a conseillé. Et c'était pure démagogie et condescendance insupportable de passer par un contre-langage pour enseigner la versification et la poésie aux élèves. Pourquoi est-ce que vous passez pas par le rap ou le slam ? C'est une aberration déjà, les élèves. Je les aurais perdus, parce qu'ils connaissent ça mieux que moi. Ils ne supportent pas qu'on empiète sur leur plate-bande et qu'on mélange tout. Ce qu'ils attendent, c'est un maître qui a une autorité aimante, bien sûr, et ils attendent d'être arrachés à un quotidien souvent morne, souvent gris, et d'être conduits et d'être embarqués ailleurs. Il ne faut pas négocier, il ne faut pas justifier la passion qu'on peut avoir pour la littérature quand on est face à eux. Au début, ils rigolent, ils nous trouvent un peu fous, mais ils se laissent embarquer très facilement.
Voilà, et on imagine que cette période, pardon, Cécile Ladjali, a été aussi une frustration pour beaucoup d'enseignants qui ont tenté de garder le lien, ce contact avec leurs élèves un peu dispersés partout, à la maison ou dans la nature. Vous allez reprendre à la rentrée prochaine probablement une partie de vos cours et continuer d'ici là l'écriture. Le temps passe vite, il faut qu'on se quitte. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci Cécile Ladjali.